Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de Radio Campus Lille de 11h à 12h30 sur le 106,6 ou www.campuslille.com ou maintenant encore, c'est nouveau, le DAB+, la radio numérique. Au sommaire de ce magazine, nous avons rendez-vous avec Daniel Torel. Daniel, bonjour.
Salut la Miche, salut tout le monde.
Nous allons parler de la Bible des bikers.
Eh ben oui, bah écoute, encore une fois...
Qu'est-ce que c'est que cette Bible ?
Bah c'est une Bible. C'est là où effectivement tous les mécréants vont retrouver un peu d'âme, un peu de spiritualité dans leur pratique quotidienne de biker.
Aïe, bon niveau. Alors on va avoir au téléphone Philo.
Philo local, donc l'éditeur, et donc Jean-William Toury, l'écrivain, concepteur, rédacteur de cette Bible.
Donc c'est une Bible qui va sortir dans quelques mois, et pour l'instant c'est pas fait.
Non, elle est quasiment sous presse, c'est un document qui sortira fin novembre, visiblement, pour un vernissage sans doute, pour le calendar.
Et il va y avoir quoi dans cette Bible ?
Alors, toute l'histoire des années 70 à nos jours sur le monde des bikers, aussi bien littérature, compte-rendu de police, histoire des MC, histoire de la musique, toute la filmographie. Donc un document qui n'a jamais été réalisé jusqu'à ce jour, à peu près 416 pages si je ne m'abuse, 1,6 kg. Donc pour les manifestations, c'est très bien, parce que ça va faire son poids.
1,6 kg, oui, c'est intéressant ça. Oui.
Avec une très, très belle iconographie d'époque, donc avec des documents et des éléments introuvables, vraiment introuvables. Donc tous les pratiquants, enfin tous ceux qui veulent connaître le monde du biker, de la moto, de la custom culture, ouvrage vraiment indispensable pour savoir de quoi on parle.
Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est avec des gens qui plus ou moins ont traîné dans le monde des bikers. Hein, voilà.
Ah j'en connais quelques-uns aussi.
C'est de moi que tu parles. Attention.
Mais tu as raison dans ce que tu dis. J'en connais quelques-uns qui ont aussi un vécu certain et qui aussi vont comprendre de quoi on va parler.
C'est sous souscription ou...
Alors actuellement, c'est sous souscription sur le site ULLE. Donc souscription, c'est pour le moment l'ouvrage est à 30 € et sera après en commerce à 35 €. Donc encore une fois, à l'époque du numérique, c'est assez étonnant, mais on aime bien sentir le matin le papier chaud qui sort de presse. Donc c'est vraiment un document indispensable parce qu'au niveau iconographie, c'est vraiment remarquable. Il y a 5 années de boulot quand même là derrière.
Ah oui, quand même. De toute façon, on en saura plus tout à l'heure. Hein, on va voir l'auteur.
Tout à fait, Jean-William Toury, oui, vous verrez, qui est aussi encore une fois musicien, parolier, journaliste, rock and folk, best, j'en passe les meilleurs. Donc reconnu dans le milieu, fondateur du groupe Wildcat, aussi à Savigny. Donc un biker devant l'éternel et surtout rock critique reconnu.
Très bien. Bon, bah on est impatient hein, de l'avoir au téléphone. Voilà.
Mais moi aussi. Oui.
Allez, on continue le sommaire avec alors Maurice Debrief. Alors, on a l'habitude de l'avoir tous les ans. Maintenant, Maurice, il vient nous dire bonjour.
Et dans les studios.
Approche-toi des micros, Maurice. Voilà. Hein, dit Momo le cruel, intoxiqué au sel de Bonneville. USA, hein, bien sûr, pas Bonneville en France. Voilà. J'ai mis ça un bon. Alors, ticket à 230 km/h. Encore 13 km pour battre le record. De Bonneville.
Bah, un petit peu à la fois, on va y arriver. Ça fait quand même 7 fois que j'y vais.
Tu cours depuis 7 ans, tu cours après ce record. Voilà. Il y a plusieurs records à Bonneville. Hein,
Il y en a 500.
C'est une Guzy qui détient le record.
Pour l'instant, depuis 97... Depuis... je dis des bêtises, depuis 97.
Ouais, 243 km/h.
243, oui.
Et là, cette année, tu as fait 230, il t'en reste 13.
Il m'en reste 13 à avoir, oui. Mais la moto marche de mieux en mieux, il y a toujours un petit problème. Bah, si c'était simple, ça se saurait et tout le monde aurait des records, c'est ce que je dis à chaque fois. Et ce n'est pas le cas. Bah, et en plus, c'est comme ce sont des véhicules vraiment exclusifs et que pour rouler sur des pistes comme ça, on peut le tester nulle part. Il y en a qui me disent, prends un bout d'autoroute la nuit.
Oui, c'est ça le problème, on ne peut pas faire d'essai.
Non. Même sur une piste d'aviation, il me faut environ 2,5 km, 3 km pour me lancer, pour atteindre la vitesse maxi que je dois tenir pendant un mile. Donc, ce qui me fait encore déjà à peu près un run de au minimum 5 km. Et après, seulement, je dois couper. Et il me faut encore un bon kilomètre et demi pour m'arrêter. Donc...
Un parachute ?
Une autoroute belge, non peut-être, des fois, mais c'est trop, il y a trop de trous. Donc,
ah oui, trop de trous.
Il y a trop de trous.
Ouais. Et t'as un parachute pour t'arrêter ?
Non, il y a des catégories. C'est obligatoire au-dessus de 175 miles. Mais moi, je ne suis pas tenu à avoir un parachute.
Ouais, cette année, c'était les 70 ans de la...
C'était le 70e anniversaire de la course. Alors, c'est un truc un peu... C'est spécifique. C'est un organisme typiquement américain qui gère ça. Et donc, à Bonneville. Mais beaucoup de gens font l'amalgame avec la Bonneville Speed Week, que je fais, qui existe depuis 70 ans. Et il y a d'autres courses qui existent sur le lac Salé, mais chapeautées par l'AMA, la FIM, des choses comme ça qui ont lieu mi-septembre. Donc c'est mi-août, c'est un peu après la Speed Week.
D'accord.
Mais c'est chapeauté par d'autres organismes, donc les records sont différents.
On reviendra sur l'événement durant l'émission. Voilà. On continue le sommaire avec un vieux motard que j'aimais. Bonjour, bonjour Fabrice Roblin.
Mais
si je dis Fabrice Roblin, personne ne va te reconnaître. Mais si, je dis des bois, alors là, tous les motards de 60, 70 ans, enfin 50, 60, 70, là, ils vont dire des bois à la radio, voilà.
C'est
bonjour, des bois.
C'est ça qui s'appelait.
Approche-toi de ton micro.
Oui, bonjour.
Voilà, alors, toute une vie de motard des années 80, parce que ça s'entend, t'es parisien en fait, d'origine.
D'origine, oui, je suis parisien. Ouais. Je suis importé dans le Nord.
T'es importé dans le Nord.
C'est bizarre d'ailleurs.
T'es monté dans le Nord dans les années 80, 82, on ne sait plus trop quand même.
C'est ça, 82, 83.
Voilà, parce que, vous étiez une bande de motards là-bas, vous rouliez en shop, t'avais un shop 500 fours.
Voilà, un shop 500 fours.
Avec un réservoir cercueil.
Avec un réservoir cercueil.
Oui, parce que tu étais croque-mort dans le à Paris.
À l'origine, ça me coûtait moins cher, je payais la customisation pas chère.
Forcément, pour le réservoir, c'était pas cher, oui, voilà. Donc, vous faisiez des équipées sauvages de Paris à Lille, vaut mieux, parce que tu trouvais que Lille, c'était vachement mieux que Paris. Hein.
Bah, déjà, c'était moins cher, et puis ça nous permettait de... Bah, nous, on avait de quoi tester nos shops, c'était pas comme Maurice.
Oui.
on prenait l'autoroute, mais des fois, on a passé des nuit sur l'autoroute, il y en avait toujours un qui tombait en panne.
En panne, c'est ça, à l'époque c'est les motos, c'était pas non plus trop friable.
Voilà. C'était l'agrément du shop. Voilà.
Et donc après, tu vas décider de partir de Paris parce que tu dis que c'est pas les Parisiens, c'est pas terrible, la vie est...
Mais j'ai décidé de quitter Paris un jour parce que... Et puis ici... J'allais toujours à New Steel Moto chercher mes pièces. Ça, c'était un peu.
On va en parler, le lieu de réunion.
Et un jour, comme ils cherchaient un mécano, je me suis proposé. Il m'a dit que je faisais l'affaire.
T'as bien dit que t'étais croque-mort à Paris.
J'étais croque-mort.
Mécano et croque-mort.
Oui, mais à l'époque, le patron était pas chaud. Il est venu voir ma moto. Il m'a dit c'est toi qui l'as faite, ça me va. Ouais.
D'accord, tu vois, c'est comment. On montrait pas le bac, on montrait pas les diplômes.
C'était les diplômes d'époque. C'était comme ça. Maintenant, c'est différent. Il faut justifier BEP, CAP. On peut plus.
Si tu fais un shop, c'est pas la peine.
Non, on vit dans un monde bizarre. Hein. On demande aux gens d'être polyvalents, mais on leur donne pas la possibilité de le faire.
Très bien, on va revenir dans l'émission sur cette vie de 20 ans de moto ici, on peut préciser aussi que les jeunes, plus ou moins les jeunes, la moto casse, sa fille, c'était toi.
Que tu as
vendu en 2000.
Que j'ai cédé en 2000, exact.
Ouais.
Exact.
Voilà. Donc plus ou
moins, j'avais bifurqué dans l'épave.
Voilà, très bien. Là, on continue le tour de table et après, c'est terminé avec Nicolas Langlais. Nicolas, bonjour.
Bonjour, l'ami. Je voudrais dire bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs.
C'est clair.
Ne pas oublier, surtout. Voilà.
Alors, ça y est. On connaît le champion du monde 2018, de championnat du monde de vitesse.
Nous nous sommes levés tous.
À 3h du matin. Hein.
3h du matin, il y avait un Grand Prix au Japon, à Motegi, sur les terres de Shiondo. Et sans surprise... Voilà. Je peux annoncer la couleur. Marc Marquez qui a été titré pour la 7e fois. Nouveau prodige.
Qui a chuté malheureusement.
Une chute des Ducati quelques tours avant l'arrivée et un Marquez impérial comme d'habitude. Donc une victoire en moto 2 de Quartararo, mais bien sûr une heure après disqualifié pour pneus sous-gonflés. Ça, c'est dommage parce que c'était le cocorico. Et pour revenir en MotoGP, c'est sans surprise. Reste 3 courses. Phillip Island, Sepang et Valence. Mais Marquez, encore une fois, atomisé la concurrence. Et il possède, je ne sais plus.
Beaucoup de points.
Beaucoup voilà. de points. 296 voilà. points. Ouais. Donc, voilà.
Et je me posais la question, ouais. parce que j'ai pas pour la deuxième place, le nombre de points. Qui est.
Alors, pour la deuxième place, il y a Rossi qui profite de l'abandon de Lorenzo. Suite à sa chute, il y a deux grands prix. Et donc, ça se jouera peut-être entre Dovizioso et Rossi.
Et voilà.
Ouais. Et Rossi ouais. est toujours là.
Et toujours deuxième. Hein.
Toujours voilà. là, même ouais. si on va dire que Marquez est en train de laisser son empreinte dans le monde des ouais. grands prix. Chaque ouais. époque est différente. Et puis, j'espère qu'on en reparlera un peu dans l'émission.
Bon, tu as fait
Mais
un petit tour.
C'était passionnant, comme d'habitude.
Tu t'es baladé le week-end dernier, Brenach, en Angleterre. Alors, un circuit qui est à 100 km de Douvres.
De Douvres. Alors, pour changer un peu du Superbike mondial, on s'est rendu à Brands Hatch. Et on était au British Superbike. C'est un championnat qui... On va dire que c'est le championnat le plus relevé au monde. Et les grands pilotes du Superbike international viennent... en général, de ce championnat. Ce sont des pilotes anglais, ce sont des saignants, il pleuvait, mais bon, ça ne change pas leurs habitudes. Et on a assisté au titre de Léon Aslam.
C'était la finale.
C'était la finale. Au titre de Léon Aslam sur Kawasaki.
Aslam, une famille de pilotes.
Le fils de Ron Aslam, grand pilote de moto. Et on a assisté à sa victoire, à son titre. Ce sont des courses assez relevées. C'est un championnat avec des pilotes qui viennent en général de l'île de Man et de beaucoup de championnats. Donc c'est des gars qui n'ont pas peur d'ouvrir en grand. Et puis ça nous change un peu du Superbike mondial. On va dire que le spectacle pour le week-end, ça nous apporte des courses toute la journée, du matin au soir, avec du sidecar, ce qui reste intéressant. Ouais. Donc voilà. Je peux parler un peu du Superbike mondial. Alors, on va parler un peu du Superbike mondial. Et on a une victoire de Jonathan Rea sur Kawasaki, quatrième titre d'affilée, qui va commencer aussi à entrer dans la légende du Superbike, puisqu'il fait mieux que Fogarty, qui avait été titré en 94, 95, 98 et 99. Et ben, il a laissé des miettes à Ducati, Chase Davis. Donc voilà, Michael van der Mark, 320 points, troisième au championnat. Donc les Kawasaki en force au British et au Superbike. Alors l'année dernière, ils avaient enlevé 1000 tours à Jonathan Rea. Parce qu'on trouvait qu'il gagnait trop facilement. Est-ce qu'ils vont encore lui enlever 1000
encore 1000 tours
peut-être l'année prochaine. Continue. Mais bon, après... Voilà.
Comment très bien, ok. Ouais. Bah, t'as fait le silence dans le studio. Hein. Je sais pas si.
Mais ce matin, j'ai.
Il s'abreuve de tes paroles.
Je vais en faire rire certains, mais j'avais, ouais. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu le titre à Marquez. J'aime bien les champions du monde comme ça, quand ils sont titrés, je trouve ça magnifique.
Bon, voilà.
Et j'étais un peu triste.
Vous avez suivi là, des bois, tout ça, Momo?
Mais non,
vous êtes levé à 3h du matin?
Non, non.
Bah, alors c'est quoi pour regarder l'avant-dernier Grand Prix? Enfin non, c'est non. C'est...
Soyez pas secteur, parce que moi j'adore la course moto, mais j'aime bien les bikers aussi. Attention. Ah bah,
on est en force. Mais de toute manière, il a marqué son territoire hein, pour la 6e ou 7e fois. Et Zarco, il est 6e, je crois.
Alors non, il est 6e. Il était sur la première ligne. Hein,
il était deuxième.
Voilà. Zarco partait deux. Malheureusement, un faux départ.
Je me suis dit tiens, on va peut-être assister à la première victoire de notre pilote français. Hein.
Mais oui, bah non, sixième, c'est quand même pas mal.
Ouais. C'est pas mal, mais bon, les Yamaha sont pas en forme. Si on veut approfondir, je pense qu'un jour on aura peut-être le temps de plus en parler. Ça va pas très bien chez Yamaha. Pas de victoire depuis l'année dernière à Assen.
Ça va pas très bien, ça va mal, oui.
Très mal. Ouais. Et même les Suzuki sont devant.
Bon, donc, Daniel, tu suis. Hein, même, non, non, mais tu roules en Indian, en biker. Et voilà.
Mais oui,
suis quand même l'actualité motarde.
Mais
voilà.
Quand je te dis que cette nuit, on était sur la route, c'est pas de la blague. Et on se dit que effectivement, Siam est à la ramasse. Peut-être que KTM fera un petit peu mieux.
On espère.
Il est au courant.
je vais dire un truc qui regarde que moi. Moi, je pense quand même que Zarco, il aurait dû signer au HRC. Mais bon,
un bon pilote,
il lui faut une bonne moto. Malheureusement, je ne sais pas.
Un problème de manager.
Ça reste, ouais. Mais on n'est pas dans les secrets des dieux. On n'est pas dans les grandes instances. On verra l'année prochaine.
Je peux dire bonjour à toutes ces dames, parce qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes aujourd'hui dans les studios. Alors, d'abord, Sylvie. Bonjour, Alice. Bon, vas-y, bah, ouais, bonjour. Voilà, Alison, Madame Maurice, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et Christine qui est juste derrière notre technicien adoré, Laurent, bonjour.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est parti, vous écoutez Kik à côté tout pâle sous 106.6 FM.
Et au téléphone, on retrouve Philo pour cette fameuse Bible des bikers.
Ouais, tout à fait. Bonjour Philo. Dan à l'appareil.
Salut Dan.
Comment vas-tu ?
Super bien.
Bon, j'espère qu'on t'a pas réveillé.
Non, à peine. Non.
Bon, parce que bah, nous, on est rentré il y a quoi ? Il y a à peine une heure, donc tout va bien.
Ok, bah, on a à peu près les mêmes horaires.
Bah, je crois, oui, je crois savoir pourquoi. Alors, écoute, je t'avais promis qu'on allait parler un petit peu de cette Bible que tu appelles Full Patch. Avant tout, comment dire, je voudrais repositionner un tout petit peu ton vécu. J'ai vu ou j'ai cru entendre que tu étais issu de la communication, vulgairement de la pub, si je ne m'abuse.
Pour... Ouais, ouais, il y a un temps, j'ai fait ça. Ouais, j'ai
voilà,
fait
ça bah, quelques années, ouais. Bienvenue au club. Tu as commis aussi, je crois, une, comment dire, tu as défini un petit peu ton activité comme étant une espèce d'artisan biker éditeur. Est-ce que c'est bien ça?
Ouais, enfin, c'est pas trop moi qui l'ai défini, mais c'est un petit peu ce que je pratique. Oui, je fais beaucoup de moto depuis des années, notamment de l'Harley. Mm-hmm. Voilà, je suis dans un club de moto. Et puis, bah, je fais des bouquins. Donc, oui, les deux sont un peu mêlés, forcément, quoi.
Tu es, enfin, si j'ai lu un petit peu la définition, un petit peu de ta maison d'édition, hein, puisque tu es ouais. l'éditeur en chef, tu produis un petit peu, enfin, tu aimerais retrouver un peu sur le marché tout ce que tu aimerais pouvoir acheter, mais que l'on ne trouve pas forcément.
Ouais, l'idée de départ, en fait, c'est de faire les livres que j'aimerais bien lire ou trouver sur le marché, voilà. Donc, effectivement, bah, j'ai la chance de pouvoir me faire plaisir. Je choisis vraiment les projets qui m'intéressent, quoi.
D'accord. À un moment donné, on parle de contre-culture, de subculture, enfin des choses un petit peu pointues. Tes éditions, j'ai regardé un petit peu ce que tu as fait, c'est quand même très très riche, hein, puisque tu parles du dictionnaire de la pornographie au cinéma, en passant par le Rise with Devil, etc., avec des choses ouais. très très pointues et avec une colonne vertébrale, un petit peu ce qu'on appelle des dictionnaires ou tout au moins des documents de référence. C'est un petit peu je dirais, ce qui te fait vibrer en tant qu'éditeur.
Ouais, puis c'est pas un hasard si la boîte s'appelle Serious, justement, c'est parce que le but, c'est de parler sérieusement de sujets qui ne sont pas forcément pris au sérieux. Voilà, quoi.
Parce que, honnêtement, ce sont quand même des documents assez pointus, plutôt bien documentés, assez fouillés, avec beaucoup d'éléments anglo-saxons. Et ça fait quand même un travail de Romain, parce que c'est quand même ce que j'appelle des niches.
Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est plusieurs années de travail pour chaque bouquin, quoi, parce que justement, on va vraiment au fond des choses, on traite les sujets de façon précise et exhaustive, sérieuse. Et donc, ouais, c'est un gros boulot, c'est pour ça que je ne sors pas beaucoup de livres par an, parce que chaque bouquin représente vraiment plusieurs années de travail pour leur auteur.
Alors j'ai vu que c'était effectivement éminemment documenté, même au niveau iconographie. Donc c'est un travail de professionnel, un travail sérieux. Par contre, ce sont des petites éditions, des petites séries, parce que j'ai cru comprendre et voir sur ton site qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient en retour ou qui n'existaient plus.
Ouais, en fait, c'est des petits tirages, parce que comme tu l'as dit, c'est des niches, donc pas non plus des milliers et des personnes. Donc c'est des petits tirages qui s'épuisent assez vite. Ouais.
Ah ok, c'est dommage parce que moi aussi j'ai découvert aussi des ouvrages que tout le monde devrait avoir, enfin tout au moins tous ceux qui s'intéressent à la custom culture, hein, puisque c'est aussi notre univers qu'on devrait trouver un peu partout parce que c'est effectivement des mines d'informations. Alors maintenant on va parler un petit peu de ce qu'on avait déjà entrevu ensemble à l'entrepôt dans la Creuse, Full Patch. Alors c'est quoi cette nouvelle aventure?
Alors Full Patch, bah, c'est un livre qui a été écrit et conçu par Jean-William Toury, qui avait déjà édité chez Serious un livre qui s'appelait Biker, les motards sauvages à l'écran au cinéma, et donc qui recensait tous les films de Biker. Donc là, ce livre est sorti en 2013, il s'est épuisé super rapidement, en un an, même pas un an, et Jean-William a tout de suite enquillé sur ce nouveau projet Full Patch, hein, qui est un petit peu le pendant de Biker, donc qui traitait des films. Là, Full Patch va traiter la littérature motarde, et plus précisément Biker, en fait. Voilà. Donc beaucoup de titres américains et quelques titres français, européens, qui traitent du Biker en littérature, en livre.
D'accord. Jean-William, donc, c'est aussi ce qu'on appelle un rock critique, plutôt connu dans le milieu du rock'n'roll, puisqu'il était, je crois, chroniqueur, où il est toujours d'ailleurs à Rock'n'Folk, Best, Extra, etc.
Jukebox.
Ouais, donc c'est un petit peu comme Philippe Manœuvre, c'est quelqu'un du sérail. En plus, il est biker, puisqu'il a roulé, ou il a même commis des faits avec un WLC 42, je crois.
Ouais, il continue à rouler en Harley régulièrement.
D'accord. Il est aussi cofondateur, je crois, d'un club, les White Cats, de Savigny.
Les White Cats, ouais.
Voilà.
Et puis il a été aussi parolier, producteur de bijoux, du groupe Rock Bijoux, qui a eu quelques succès dans les années 80, quoi.
Ouais, même plus que ça. Puisque je crois qu'il était, non, il n'était pas manager du groupe et parolier de 77 à 85.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça.
Donc, groupe Bijoux, ben, de toute manière, tout à l'heure, on va en passer. Je crois que Laurent a programmé, hein, ça c'est prévu.
Tout de suite après.
Super.
Tout de suite, ouais, voilà, juste après.
En live.
En live, parce que ben, d'abord, c'est un super groupe aussi mythique. On pensait que. Enfin, c'était vraiment une pointure et intéressant.
Ouais, ouais.
Ouais, donc, Jean-William, il sait de quoi il parle, donc visiblement. Tu m'as dit aussi que c'était bon, donc, plus de 5 années de boulot et avec une, une iconographie très très pointue avec des choses qui n'existent plus.
Bah, il y a beaucoup de titres qui ont disparu, hein, qui sont épuisés, qu'on a vraiment du mal à trouver. Et Jean-William, donc, depuis 5 ans, même avant, parce qu'il s'intéressait déjà au sujet, bien sûr, a lu tous les bouquins. Tous les bouquins qui sont chroniqués dans le livre et qui apparaissent dans le livre ont été lus. Et donc, il les a mis entre les mains. Donc, il a scanné, bien sûr, les couvertures. Et chaque bouquin est accompagné de sa couverture. Donc, ça fait une source iconographique super riche, avec des livres qui sont maintenant, pour certains, vraiment introuvables, quoi.
Et bien sûr, c'est en français ou est-ce qu'il y a encore des... Enfin, est-ce que les sources sont anglo-saphins, anglaises, plus exactement, ou tout a été traduit?
Alors, le bouquin, il est en français.
D'accord.
Par contre, il y a beaucoup de livres qui n'ont jamais été traduits. Hein. C'est vraiment... Il y a beaucoup de romans de garde, de petits tirages, de trucs qui étaient vraiment confidentiels à l'époque et qui n'ont jamais été traduits en français. Donc, il y a beaucoup de livres anglo-saxons que Jean-William chronique, mais qui ne sont jamais parus en France.
D'accord, donc des mines aussi pour connaître un petit peu l'origine de la custom culture, on peut dire ça comme ça?
Ben ouais, c'est vraiment une source historique d'informations, et puis qui éclaire un genre littéraire qui est vraiment méconnu, quoi, qui est le roman de biker. Voilà, c'est un sous-genre de la littérature de gare, donc qui n'a jamais été exploré de cette façon-là. Parce que le livre est vraiment une première mondiale. Il n'y a jamais eu un bouquin qui traitait de ce sujet-là de façon aussi complète.
Ok, bah écoute, j'espère que... Enfin, je pense que ce sera un succès de toute manière, puisque on en a parlé déjà autour de nous, et ça intéresse au plus grand nombre les gens qui veulent connaître un peu ce milieu un peu ésotérique, un peu mystérieux, un peu fantasmé par certains, qu'est la custom culture et le monde des bikers. Et je pense que des gens comme toi vont apporter sans doute un éclairage nouveau à cet environnement qui en a beaucoup besoin quand on voit les séries... Pardon, je vais dire une bêtise, séries à la con, mais je ne vais pas le dire parce que ce n'est pas correct. Mais les séries télévisées qui font tout et n'importe quoi. Et bien encore une fois, je pense que... On attend ton boulot. Je t'ai proposé que tu viennes faire un vernissage pour la remise du calendar parce que ça va être aussi un grand moment.
On sera là, ouais, avec plaisir.
Ok. Bon, on va peut-être passer un coup de musique maintenant. Et puis.
Okay.
Et puis, qu'est-ce qu'on dit, la miche hein?
On dit merci pour cette interview. Vraiment,
pour cette interview,
c'est super. Et on te souhaite, on espère te voir bientôt. Et puis, et surtout, passe un agréable
week-end.
Week-end, et puis tu peux nous écouter sur Internet si tu veux, hein, sur Campus Lille. Okay.
Voilà. Okay. Bah, Philo, à très
merci
bientôt.
À
allez,
à bientôt,
salut.
Ciao. Ciao. We'll be right back.
n'ai besoin de personne, Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je roule à plus de 100 et me voilà aveuglé à 100. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir.
C'est Maurice à Bonneville le week-end, la semaine de la Speed Week. C'est comme ça ?
C'est exactement ça.
C'est ça ?
La Speed Week. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que je fais d'ailleurs depuis ce que je disais tout à l'heure, depuis 7 ans. C'est le plus gros rassemblement de hot rod, de bagnole, de bécane. Parce que la course dure une semaine, dure 7 jours. C'est la seule course. Il y a d'autres courses qui ont lieu sur le lac Salé, mais qui durent 2 jours, 3 jours maxi. Je crois que la plus grande dure 5 jours. Là, on a vraiment ça démarre le samedi jusqu'au vendredi suivant. Avec des essais, on peut rouler tout le temps de 7h du matin à 6h du soir.
Alors moi je voudrais revenir sur les problèmes en 2014 et 2015. Cette fameuse manifestation a été annulée.
C'était annulé,
cause de problèmes de sel, parce qu'il y a d'abord il pleut beaucoup, enfin il pleuvait.
Il n'y a plus les deux années, 2014-2015, mais surtout, depuis 50 ans maintenant, il y a une compagnie minière qui exploite le sel pour la potasse qui est dedans, hein, pour faire des engrais, des choses comme ça. Et donc, même si le lac est immense, hein, il y a plusieurs centaines de kilomètres carrés avec une couche qui était au moins 1 mètre, 1 mètre 50 partout, mais ils l'exploitent à l'américaine, c'est-à-dire pas du tout les mêmes moyens que nous. Donc, ils ont pompé des millions de tonnes de sel, et ils en ont enlevé, donc il reste par endroit ou rien, voire au mieux quelques centimètres de croûte de sel sur de la bouillasse en dessous.
En dessous, c'est quoi ? C'est
de l'argile, un truc comme ça, ouais. une terre. C'est une mer asséchée, donc le sel s'est concentré. Et donc il y en a qui me disent ouais, ça va se renouveler. Mais je dis mais ça va pas tomber du ciel, c'est tout, c'est pompé.
Donc la surface de ce lac, c'était, tu me disais, il y a quelques années, c'était roulé à 200-300 km/h là-dessus, c'était assez risqué.
Ah oui, oui, bah encore maintenant, ça dépend des années. L'an dernier, j'ai roulé, c'était casse-gueule. J'ai fait une seule pointe à 220, un truc comme ça. J'ai coupé, j'ai dit, je vais mourir. Je ne serais pas là en train de vous parler actuellement.
Parce qu'on se souvient de ce fameux film hein, de Burt Monroe, hein, que Desbois ne connaît même pas. Alors. Ah, il connaît même pas ça.
Ça manque à pas.
Alors là,
justement,
le sel, c'est mauvais pour la santé.
Non, c'est pas bon. C'est pour l'hypertension.
Burt Monroe tiré de fer réel.
Bah oui, de fer réel avec une mille Indian 1000.
Tout à fait.
Scott Indian. Ouais, voilà, il y a le record en 67. Son record est toujours valable d'ailleurs. C'est sur les rules, donc le livre où il y a sont référencés tous les records. Son record est toujours affiché. Et apparemment, bon, il y en a, ils disent c'est un cursed record. Donc c'est un record maudit. Il ne faut pas y toucher.
Ah bon ?
Il n'y a personne qui va se mêler
d'aller courir
dans cette catégorie par respect. Ils disent non,
on
lui laisse. On lui laisse. Donc a priori, à vie.
Tu vois des bois.
C'est bien.
Non, mais c'est effectivement, c'est
ce qui a passé quand même, il était juste en dessous de 300 km/h en 67.
En 67,
donc, avec son vieux monde brun.
Je sais pas, dans le film, ça a dû être un peu
rangé. À peine.
Non, mais parce que quand il pisse sur les pistons, parce qu'il fait ses pistons lui-même.
Oui, tout à fait.
Hein, et pour les refroidir, après, il pisse dessus pour que ce soit bien trempé. Non, des bois, c'est vrai.
C'est incroyable. Que... C'est... Comme quoi, ça a bien évolué, la moto, tu vois. On parlait de la différence, quand même. Mais c'est vrai, il pissait sur ses pistons pour les tremper.
Bah oui, il faisait ses pistons lui-même pour, si tu veux, augmenter la compression, quoi.
À savoir que c'est un film qui a été tiré, qui n'a pas eu un grand public, qui est passé plusieurs fois sur les chaînes de télé, et l'acteur principal, je me souviens plus de son nom, n'a pas pris un gros cachet.
Anthony Hopkins.
Il n'a pas pris un gros cachet, mais c'est vraiment un film passionnant. Et quand il est sorti à Kinépolis, le jour de sa sortie, il y avait quelques motards qui étaient en haut, près des enceintes. et qui regardait le film. Pour c'est un film qui n'a pas fait salle pleine. Mais
non, mais c'est il a été vendu en pas mal en DVD et puis
qui a fait le bonheur de tous les motards.
T'as tout à fait raison. Je suis allé avec Julie le voir quelques jours après la sortie. On était 6 dans une salle du Kinépolis. On se dit et j'ai une copine qui était chef de cabine là-bas. Je la croise, elle sortait faire sa pause. Elle dit qu'est-ce que tu vas voir? Burt Monroe. C'est un film de vieux.
C'était surtout un public d'avertis.
Ah non, mais si
ça parle de Bonneville déjà. Il y a la moyenne. C'est déjà, c'est, même si c'est mauvais, il peut avoir que la moyenne déjà.
C'était un public d'avertis avec peu de spectateurs, mais et en plus c'est un film qu'on peut regarder en famille parce qu'il n'y a pas de violence. Il y a pas de. C'est vraiment une belle histoire.
Ah, terrible. Alors juste pour la petite anecdote, l'an dernier il y avait le donc bien sûr
il y avait le petit-fils
la course encore de Bonneville tous les ans au mois d'août et le stand j'avais mon stand et le stand Indian était juste collé à nous derrière nous donc il y avait la moto de Burt Monroe qui était exposée derrière des barrières des choses comme ça donc les gens on a réussi à faire des photos de loin comme ça
et c'était le petit-fils de Burt Monroe
Burt Monroe qui courait sur Indian mais enfin ça n'a plus aucun rapport c'était vraiment de la pub c'est plus du culbuté
Indian aime bien ce record là
ben voilà ce qui est amusant tu vois tu étais à côté d'Indian tu vois
je suis toujours à côté d'Indian
l'histoire te poursuit comme c'est pas très radiophonique. Bon, voilà, Daniel est assis juste à côté de Maurice et Daniel a un superbe t-shirt Indian parce qu'il roule en Indian.
Ben voilà. Oui. Mais écoute, voilà. J'ai commis ça.
Il y a des gens qui font des erreurs, mais voilà.
Je finis mon anecdote. Donc, on avait le stand qui était collé à Indian et à la fin de la Speed Week, tout le monde a remballé et il restait, il y avait quand même un gars qui restait debout avec un flingue, mais un téléphone à côté de la moto de Burt Monroe et plus que la moto. Ils avaient retiré les barrières, tout ça. Et du coup, je me suis approché du truc, je dis, on va faire des photos. À côté.
Oui. Et alors ?
Et comme le mec regardait comme ça, bon, et puis on était trois, lui était seul, j'ai dit bon, on va y aller. Allez, bon. Et on s'est assis dessus, les trois copains et moi, on s'est mis sur la moto de Burt Monroe. Donc j'ai des photos.
Et vous avez fait les photos ?
Sur la moto de Burt Monroe. J'ai dit, alors les copains étaient un peu hésitants. J'ai dit, quand même, attends, est-ce que vous retrouverez une autre occasion de votre vie de remonter sur cette moto ?
Ça fait jamais. Quoi alors ? T'as ressenti
c'est
quoi,
que la ferraille rouillée. Ah ouais, non, c'est pas mal. Mais c'est impressionnant. Tu dis, le mec roulait à 297, je crois, son record, sur ce bout de ferraille tordu, déglingué.
La fameuse réplique, qui dit, on lui dit.
Pour des trompe-la-mort.
Oui, parce qu'il y a des contrôles techniques aussi à l'époque. Et donc les inspecteurs regardent sa moto, ils disent, mais c'est pas possible, vous allez pas tenter. Vous avez même pas de frein. Et le pauvre qui dit, de toute façon, je suis pas venu ici pour freiner.
Exactement.
Et il y a une réplique où ici, il lui dit, parce qu'au contrôle technique, ils ne veulent pas le laisser passer. Et il lui dit, je vous trouve bien fébrile pour des trompe-la-mort.
Alors, on revient un petit peu à notre fameux lac de sel, là. Et, donc, apparemment, les problèmes se sont arrangés.
Ah ben, curieusement, ouais, je sais pas. Donc,
cette année, c'était bien, 2018, là.
Super. Ouais. La couche de sel toujours très fine, mais bien lisse. Il y a bien plu, apparemment, cet hiver, ce qui aide à relisser tous les ans. Ça refait un mélange de sel comme ça et de flotte et quand ça sèche ça refait une croûte bien dure bien lisse.
Alors parce que il y a des motos mais aussi des voitures ça laisse pas des traces des ornières
non le sel est très dur ça fait une couche on n'arrive pas à le gratter c'est pas du tout du sel de table ça fait vraiment une croûte très très dure. Et donc cette année, c'est encore petite anecdote, ils ont battu le record de vitesse, le record absolu de vitesse donc en 4 roues. Donc le Challenger 2 de Mickey Thompson, enfin de Danny Thompson, le fils, a battu le record à 450 miles. Donc ça fait quand même 800, plus de 700 plus de 700 km/h. Donc c'est transmission par les roues.
Ah oui, attention parce que le record absolu c'est
1200.
Ils ont passé le mur du son. Ils ont passé le mur du son.
En 97.
Ouais.
Mais ça c'est avec des réacteurs. Réacteurs. Donc il n'y a pas de transmission par les roues.
Et toi c'est dans le Vesco alors.
J'y viens.
On va passer un morceau de musique. On va parler de Don Vesco parce qu'il était de retour.
Rick Vesco, le fils.
Oui, le fils. Mais on a tous vu dans les années 80. On parlait des années 80, Don Vesco, le cigare qui était sur le lac Salé.
Qui est toujours là, il est de retour.
Ouais, il est de retour, voilà. Allez, un morceau de musique, Maurice. Et puis après, on retourne là-bas sur le lac Salé de Bonneville. We'll be right back. bon, on repart là-bas à Bonneville, sur le lac Salé, hein, Bonneville, dans l'Utah, c'est ça, hein, c'est,
exactement, voilà, à la frontière Utah-Nevada.
C'est au milieu, je crois, du...
Non, juste à la frontière.
Ah, ouais. Ah oui, donc, c'est dans le sud.
Gauche.
Gauche, d'accord. Voilà. Et tu pensais à un truc, justement, il n'y a pas des records avec des motos électriques encore
Si. C'est, y a des, ouais. Ça, c'est mes collègues parisiens des triplettes.
Daniel, on a des copains électriques. Si, il y a des records.
Ouais, avec des choses, des mobilettes, enfin des petits trucs. Quoi. Ils ont même battu le record le plus lent de l'histoire de Bonneville avec, je sais plus, 19 miles. Donc, s'il fait, je sais pas, 30 km/h, comme ça.
Remarque,
un Solex électrique.
C'est
validé.
Est-ce que tous les records sont homologables? Est-ce qu'on peut homologuer tous les records, quel que soit.
La catégorie?
Ouais.
Ah ben, y a une infinité de catégories de cylindrées. De carrosserie, carénée, pas carénée, construction spéciale, modifiée, si tu fais ta moto toi-même, si tu prends une moto de série, si tu as un turbo, si tu n'as pas de turbo, si c'est l'essence, le carburant que tu mets. Chaque fois, ça subdivise. Donc, tu as des.
Il y a 3000 catégories. Hein.
Je ne sais plus combien, 500, 700,
700 catégories.
Comme ça, dans ces eaux-là, je ne sais plus combien, c'est monstrueux. Quoi. Donc, on arrive toujours à trouver. Tu deviens avec un vieux truc vintage, une 125 Peugeot.
Tu peux te créer ta catégorie, en fait. En quelque
sorte. Il y en a qui font ça, qui sont spécialistes dans le.
Une moto à voile.
Il est amer, Maurice, parce que les Parisiens ont plus de records que lui.
Ah, les Parisiens ont plus de 50 records, mais bon. Voilà.
Maurice, on revient un petit peu sur ton. Mais vous n'allez pas vous parler comme ça, hein. Vous êtes à la radio, là.
Je suis attaqué par un Parisien.
Ton record, toi, c'est catégorie donc 1000 cm3, sans carénage, culbuté, construction spéciale.
Voilà.
Hein, ça, c'est ta catégorie.
Donc, j'avais choisi un moteur
d'armée. Que tu essayes de battre ce fameux record depuis 6-7 ans.
7 ans, voilà.
7 ans. Détenu par une moto Guzzi.
Bah oui, j'avais commencé la construction en 2008. Et le record à l'époque était à 215 km/h. J'ai dit, 2008. 215 avec un Sportster, ça devrait le faire.
La machine que tu utilises. Hein.
C'est, déjà, je roule en Sportster qui marche très bien. Déjà, je passe les 200 d'origine. Donc, je dis, prendre 15 km/h de plus, ça devrait pas poser de problème.
200 en France ? Mais c'est un criminel.
Autoroute allemande.
Ah bon, ça va. Attention.
Et comment dire, le record a été battu en 2008.
En 2008.
Par une Guzzi.
Par la Guzzi, oui.
Par une Guzzi, 2008.
243.
Et là, ils ont passé, ouais, 243. Enfin, j'ai vu des photos du moteur. Ouais. L'intérieur, c'est plus de la Guzzi. Hein. C'est tapé, piston forgé. Machin.
Ceci étant, un Sportster à 200 km/h, il y a aussi un petit peu de travail quand même. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Donc, Sportster, mais attention, travaillez, hein, parce qu'on peut voir des photos, hein, sur un site. Ouais. Donc, il y a un carénage. C'est. Tout est affûté,
ah non,
quand même.
Non, j'ai pas de carénage.
T'as pas de carénage.
Non, c'est sans carénage.
Ah, c'est sans carénage.
C'est sans
carénage. Pas carénage, t'as la tête de fourche.
Non, interdit.
Ah bon ?
Rien du tout. Non,
sur les photos, j'avais vu une tête de fourche.
Oh, bah c'est pas moi alors. Ah non. Voilà. Non, justement, c'est ça qui est pénalisant. Il y en a beaucoup qui me disent, ouais, tu vas à Bonneville, tu montes à combien ? À 600.
Alors, t'essayes de. Comment tu fais ? Tu essayes de planquer derrière.
Il faut être le plus fin.
Le plus fin possible.
J'ai perdu du poids exprès.
Comment tu fais ? Tu te mets derrière les contours
Quasiment. Ouais. La moto, le moteur fait la hauteur le moteur du Sportster, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr, il y en a plein à la radio qui connaissent ça. Bah, ma moto fait la hauteur du moteur. Le moteur est à 2 cm à peu près du sol, le dessous, et je suis couché sur les culasses. Donc je ne peux pas faire plus bas, plus fin, et c'est resserré autour, c'est comme si je tenais mes tubes de fourche, le guidon, les bracelets sont de chaque côté du tube de fourche, c'est comme si je tenais
Et t'as les pieds
à l'arrière, comment? À l'axe de roue arrière. Ouais.
Donc les commandes de vitesse sont déportées?
Sont inversées.
Sont inversées.
Hein, comme ça, j'ai pas cherché à remonter. Ouais. Les vitesses à cafouiller quand on est comme ça un peu concentré quand même. Là, j'ai juste à donner des coups de tatane.
Et point de vue équipement, alors, t'as un casque comme les pilotes de MotoGP ou...
Non, mais ils demandent. Justement, j'ai ramené la Bible, le petit bouquin là, qui fait je sais plus combien dans les 200 et des pages.
Est-ce que tu soignes ton aérodynamisme personnel?
Bah, il vaut mieux avoir évité les vêtements flottants, genre un ciré de pêche breton, tu vois, les trucs comme ça,
qui claquent au vent,
c'est pas top. Quoi. Donc une belle combinaison en cuir moulante, bon, ça
c'est beau aussi, ça.
C'est pour, Laurent.
On peut avec un casque jouer sur les kilomètres.
Comme tu le savais bien.
Ça fait facilement 3 km/h.
Tout est bon à prendre. Donc là, je me suis fait faire une combine.
Une anecdote.
Un peu plus
tu avais rencontré Phil Reed qui t'avait dit il faut limer les poignées de frein.
Il faut faire des trous dans les poignées de frein, poignées d'embrayage, des choses comme ça.
Ouais. Parce que tu gagnes 1 ou 2 km/h.
Non, et surtout, et c'est ce qu'il m'a dit, c'est bon, ça maintenant à vérifier, mais dit par exemple la poignée de frein, si tu fais pas de trou dedans, à des grandes vitesses comme ça, le vent appuie dessus. Ah, oui, et tu risques d'appuyer légèrement, de faire lécher, l'échouiller, on va dire, les plaquettes. Et tu perds, même si c'est 1 km/h, plus tout. Même la chaîne, par exemple, il ne faut pas une chaîne avec des joints toriques. Il faut une chaîne racing sans rien, vraiment, qu'il y a pas de, sur laquelle il n'y a pas le moins de frottement possible. Tout doit être prévu. Je change mes roulements tous les ans. Chaîne neuve tous les ans. Je regresse tout est...
Donc là, cette année, tu as vu trois teams américains débarquer avec des motos bien affûtées aussi. Et tu t'es dit, oula, ça va pas être facile.
Ah oui, il y avait trois teams des garages américains. Donc en plus, je suis chez eux avec leur matériel, avec de la Harley aussi, avec du Sportster. Enfin, ils avaient de la Buell. Et pour ceux qui connaissent, du XR 1000. Hein, donc c'est la culasse arrière est inversée. Et donc il y a deux carbus et affûtés. Et ils ont fait un peu mieux que moi. Mais ils sont pas encore au record. Donc je me dis...
Alors toi, 230
pour 243, mais avec un ratatouillage, comme je vous disais tout à l'heure à l'antenne, je ne peux pas tester à très haut régime et longtemps. J'ai déjà passé au banc, d'ailleurs je remercie Philippe de Max Power, petit clin d'œil comme ça qui m'a permis de passer avec ma moto, voir un peu la puissance. Donc j'arrive à 100 chevaux roue arrière pour un 1000 Harley. J'attends que quelqu'un fasse mieux dans la région. On en parle beaucoup, mais il y a
moteur,
personne.
C'est un moteur longue course, donc généralement, pour avoir des chevaux, il faut monter dans les tours. De toute façon.
Je prends 8000.
Mais comme c'est un moteur longue course, c'est pas facile parce que justement, la puissance maxi, c'est aux environs de 4500-5000.
Et encore.
Et donc là, avec la prépa que j'ai faite, il est devenu super carré. Je mets un embiellage avec des bielles, un embiellage plus court, on va dire, avec des bielles plus longues, ça c'est l'inverse. Hein. C'est le même piston que le 1200. J'ai gardé, c'est les pistons forgés, là c'est autre chose. Mais ce qui me permet de prendre 8000 tours et donc aller chercher la puissance. Et plus je prends de tours, plus la puissance monte.
Tu as rencontré encore des ennuis, tu as eu des ennuis.
Oui, justement.
À haute vitesse, ça.
Au régime, comme je ne peux pas la tester, et je me rends compte, tous les ans, je dis, tiens, je monte à 6500, 7000, puis là, c'est à 7500, 8000 que ça. Qu'il y a encore un problème, mais c'est toujours des vibrations. Les deux autres années, c'était le réservoir qui vibrait, et ça faisait une émulsion, donc j'aspirais de l'air plus que de l'essence, donc ça, je tombais en panne d'essence, ça repartait, ça retombait. Là, ça refait la même chose, mais très, très brièvement, pendant 2-3 secondes, ça recoupe un peu, je redescends à 6500. Et après, je reprends, mais même en ratatouillant comme ça, parce que la vitesse est prise sur un mile, c'est pas pris en instantané, dire on passe pas devant une cellule, dire tiens, à quelle vitesse t'étais. Ils font une moyenne sur un mile, donc faut tenir cette vitesse. Et malgré tout, même en ratatouillant comme ça plusieurs fois, en coupant, en reprenant, en coupant comme ça plusieurs fois, j'ai quand même un ticket à 230. Donc je dis, la vitesse maxi doit être aux alentours de 40, de 50. Donc a priori, le record devrait pas être trop loin. Donc si on se revoit l'an prochain, j'espère vous annoncer. On verra.
C'est pour ça que ça dure aussi longtemps. Ça fait 6 ans parce qu'à chaque fois, tu fais les essais tous les ans.
Tu fais essayer vraiment.
Tu fais l'essai en fait.
En live.
Voilà.
T'as pas essayé de pisser sur tes pistons.
J'ai essayé beaucoup de choses. Je peux essayer. Je vous raconterai.
Nous, ce qu'on va essayer, c'est de mettre un morceau de musique.
Ouais, tu tombes en blouse comme Bart Monroe.
Pour refroidir les micros.
Je crois que c'était pas sur les pistons d'ailleurs. Qui pissait, c'était sur son citronnier.
C'est son citronnier en fait.
Et tu fais ton jardin aussi comme lui, non?
Mais c'était beau quand même. Ouais,
c'était un beau
Allez,
film.
Musique.
So I'm coming around, I'm breaking it down. Better
Bon, allez, on retourne là-bas à Bonneville, hein, sur le lac Salé, donc aux USA. On a vu réapparaître le fameux cigare là, de Don Vesco. Je suppose que c'est pas celui.
Alors, c'est pas celui-là. Maintenant, c'est toujours un moteur à turbine. C'est le Turbinator 2. Hein, ça fait un nom un peu. Film X.
Oui. Predator.
Tu me prêteras tes cassettes.
J'ai une vidéothèque très, très fournie.
On voit ça.
Et donc, c'est le fils Vesco, Rick Vesco, qui a battu. Alors, c'était le record absolu de vitesse sur Terre, mais transmission par les roues, hein, donc pas par réacteur, était détenu par le Speed Demon à 435 miles depuis quand même pas mal d'années. Et là, pour la première fois, là, cette année, le Turbinator a passé les 450, 472. Et là, ici, ils ont fait des essais privés en octobre. Hein, donc c'est tout frais, je vous donne l'info. C'est tout chaud, ça sort du four. Et ils ont passé les 500 miles. Donc, c'est-à-dire, ils ont passé les 810 km/h, 503 miles, je crois, donc 810 km/h en moteur à turbine. Bon, ils sont aux alentours de 5000 chevaux, c'est une turbine d'hélicoptère, c'est un truc de fou, ça fait, je sais pas, 10 mètres de long, le bazar. Regardez sur Internet, il y a des très belles vidéos là-dessus. Le Turbinator 2, c'est fantastique.
Ça doit bouffer.
C'est pas très écolo. Disons, on est loin de la moto électrique.
Ça doit consommer de l'essence.
Mais c'est magnifique. Et le record absolu donc de vitesse, donc pareil, moteur à piston, a été battu aussi cette année, 2018, cet été, à la Speed Week, par le Challenger 2. Donc, c'est plus Mickey Thompson qui avait ça. Et c'est le même véhicule qu'ils ont repris. Le père avait le record il y a 50 ans. Ils ont gardé le même véhicule, l'ont amélioré et l'ont ramené 50 ans après. Et ils ont battu le record absolu de vitesse aussi à 450 miles. Pareil, ça, ce qui fait plus de 700 km/h. Donc, deux records ont été battus absolus cette année. C'est sur le 16, magnifique.
On pourrait peut-être parler des records des Français là, en 50 centimètres cubes.
Oui, il y a aussi les potes de chez Bidalo. Donc, il y a eu deux émissions. Il y a eu sur, pour ceux qui suivent ça, il y a eu sur Turbo. et sur Automoto. Ils ont eu une belle émission sur eux. Donc c'est un préparateur français, hein, je ne vais pas vous faire l'article sur eux, tout le monde connaît Bidalo, et ils ont fait un 50 préparé maison, ils ont passé les 160 km leur 50 cm cube, et ils ont changé le moteur, ils ont gardé la même partie, ils ont mis un 100 cm cube dedans, et ils ont réussi à passer, et aussi ils ont approché les 200 km/h avec leur mobilette, oui. Ce qui commence à parler... Ils ont les records, ils ont réussi à inscrire leur nom au tableau, ils sont champions maintenant, super.
Bon maintenant t'es rodé pour envoyer ta moto là-bas, prendre tes billets d'avion
Ça me coûte un bras chaque fois.
Ouais, parce qu'il faut des sponsors, parce que...
Donnez-moi des thunes.
Mais j'ai cru comprendre que pour Rick, c'est Vibrator 2, là, c'est sponsorisé par...
Vibrator 2, non, c'est Turbinator 2.
Turbinator 2, c'est pas Clara Morgan qui sponsorise?
Oh, je sais pas.
Non, mais c'est ce que tu disais, plus ou moins, non?
Alors, un bras, c'est combien?
Un bras, globalement, c'est 10 000. 10 000 euros.
10 000 euros.
Ouais, entre les billets d'avion.
Pour envoyer la machine
tout,
là-bas.
Tout compris, c'est à peu près ça.
Container,
c'est
un container. La récupérer là-bas.
Quand j'arrive à me débrouiller avec d'autres personnes qui y vont, on peut partager un container, ça peut aller. Sinon, c'est caisse avion. Donc vous imaginez envoyer un truc à, je crois qu'il y a 13 000 km. Envoyer un truc qui fait 250 kg par avion là-bas et le faire revenir, ça coûte forcément entre 2, 3 000, 3 500 euros.
Là, tu t'arranges avec des gens qui participent aussi
Quand je peux,
pour louer un container
quand il y a suffisamment de participants. Mais bon,
Et Harley, t'as pas des concessionnaires Harley qui te donnent un coup de main là-bas?
Là-bas, non. Ici, de temps en temps, j'ai un petit coup de main de chez Harley Lille.
France,
non, j'ai déjà demandé. Ils m'ont dit, est-ce qu'on vendra plus de motos si on t'aide? Donc, ce à quoi j'ai pas su répondre, j'étais un peu perplexe.
Dit, oui, ça je comprends.
Peut-être, je sais pas, mais pour la beauté du geste, mais non, rien à foutre.
Ils pourraient l'exposer dans le magasin. On a déjà exposé ta moto. Hein.
Pour remercier Harley, j'ai dit que j'exposerais le proto parce qu'il m'a filé des batteries, il m'a filé un vilebrequin, des choses comme ça. Donc. C'était sympa, donc j'avais dit que je ferais une expo, mais quand j'aurai le record. Parce que je vends pas la peau de l'ours avant de...
Ah oui, donc pour l'année prochaine.
Fin d'année prochaine.
2019, c'est bon. Voilà.
J'espère.
Faut rappeler que c'est dommage parce que c'est les 70 ans cette année quand même.
Ça sera les 71.
Mais faire un record le jour d'une date anniversaire comme ça,
c'est de 100 ans non plus de Bonneville.
Ça peut être bien aussi.
C'est possible, Maurice. Très bien. Eh ben, écoute,
merci.
On a répondu, on a fait un peu un tour d'horizon là. On espère que l'année prochaine, hein, ça y est. Hein, tu viens avec le champagne.
J'espère
largement. Avec une caisse même.
J'espère qu'on se reverra à la même époque et avec une bonne nouvelle pour moi et pour tout le monde, ça sera sympa.
Très bien. Allez, un morceau de musique et on se retrouve juste après.
Across the sea, he brought us pain and misery. Alors, retour dans les années 80 avec Fabrice. On va dire des bois, hein. Non,
merci.
On va pas le faire.
Ça me fait drôle.
Des bois. Alors, pourquoi des bois? Tiens, raconte un peu. On sait, moi je sais, hein, mais
voilà, parce que je
mes auditeurs ne savent pas.
Je m'appelle Fabrice Roblin. Roblin Desbois.
Donc, voilà, quand tu es arrivé à Lille, on t'a dit non, on va t'appeler Desbois, ce sera plus simple.
On me l'appelait déjà Desbois, donc c'est resté.
Donc, années 80, les dernières années de liberté sur nos routes, pas de permis à point, peu de radar, amende plutôt peu dissuasive. C'est vrai?
À l'époque, on se faisait arrêter souvent en moto, hein.
Ouais.
Maintenant, je trouve que les flics sont assez coulants. Ils laissent passer les gens, même ceux qui font un peu de bruit. Oui, oui.
Ouais.
Ça fait des années que je me suis plus fait arrêter. Mais à l'époque, c'était souvent quand même. Hein.
Oui, d'accord. Bon, Paris, 1980. Tu es né à Paris, hein, là-bas, dans la banlieue. Hein.
Dans la banlieue, oui.
Voilà, hein, tu es avec une bande de potes.
Exact.
C'est un club? Une association, un club local?
Non, c'était une bande de potes, c'était pas un club.
Voilà. Donc votre plaisir, c'est de dépouiller des machines et de les démonter, je veux dire. Hein, voilà. Et puis de refaire des shops, vous reliez avec des motos un peu spécifiques.
Voilà, customisées, des shoppers. On allait acheter à l'époque, le seul magasin en France, c'était American Moto à Paris. Donc on allait acheter nos pièces là-bas et... C'était un autre monde, quoi. C'était le début de la customisation. Et...
Vous vouliez faire comme ce fameux film avec
Easy Rider. C'était Easy Rider.
L'équipé sauvage, même.
L'équipé sauvage, un peu moins, quand même.
Un peu le genre, si, quand même, mais c'était Easy Rider, but. Ouais.
C'est de là que ça vient, un peu, cette mode des shops.
C'est de là que ça vient.
Donc avec un moteur 4 cylindres.
4 cylindres, à l'époque, j'avais
500 fours.
Un 500 Honda four, oui. c'était le plus facile.
Donc cadre rigide.
Cadre rigide. Une
longue fourche.
Une longue fourche, ah oui.
Donc combien, de combien de mètres?
La moto devait faire 3 mètres et quelques. Ouais,
3 c'était... mètres, ouais. D'accord. Voilà. Et un réservoir, on l'a dit au début de l'émission, un cercueil. Parce que là-bas, tu bosses et tu es croque-mort.
Voilà, je travaillais au pont de
funèbre
général.
Et le Sissi Bar, c'était quoi le Sissi Bar alors?
Mon premier, c'était une croix. Ouais,
voilà,
une croix. C'était peut-être un petit peu trop ciblé. J'en ai fait plusieurs. Hein,
t'en as fait plusieurs? Tu me l'as pas dit, ça.
La moto a été transformée plusieurs fois. Ouais.
D'accord. Donc, Paris, et votre truc à vous, c'est de venir régulièrement sur l'île faire la fête. Hein.
Bah, quand tu roules en 500 fours à Paris, au bout d'un moment, ça engorge un peu dans la circulation, surtout le samedi soir.
Avec une moto de 3 mètres de long.
Voilà, ouais. Alors, on faisait un tour de Paris. Et puis de temps en temps, on disait tiens, on va sortir du périph et on va monter prendre le petit déj à Lille.
Voilà. Donc, voilà. Et ça se faisait en combien de temps ce par Lille? Il faut des 5 heures, 6 heures.
Ah ouais, j'ai vu. J'ai vu passer
quelques
la nuit.
Anecdotes quand même.
J'ai vu passer la nuit sur l'autoroute.
Ouais. Passer la nuit sur l'autoroute.
Ah oui.
Oui, parce qu'à l'époque, les motos n'étaient pas non plus fiables comme maintenant aussi.
D'autant que c'était des motos faites maison, hein, donc c'était de briquet de broc. Il y avait un peu de tout.
Voilà. Et donc vous avez commencé à connaître un petit peu ici sur l'île les personnes qui pratiquaient la moto voilà.
À l'époque, Tonton, moi, c'était un gars qui avait travaillé chez American Moto.
Tonton, il faudrait peut-être revenir un petit peu sur le personnage, parce que les auditeurs ne connaissent pas. Tonton, c'était quelqu'un de très connu aussi, de la région.
Un ancien vendeur de chez American Moto qui avait voulu faire un magasin custom dans le Nord. Il s'était rendu compte que la moto était plus développée dans le Nord qu'ailleurs, en France d'ailleurs, c'est vrai. Il y a toujours plus de kilomètres parcourus ici par moto qu'ailleurs. Les gens craignent pas le froid ni la pluie, ils roulent plus. Et il avait ouvert ce magasin. Donc nous, plutôt que d'acheter nos calepiers à Paris, on venait les acheter. Du coup, on passait le week-end. Ça nous coûtait pas cher en bière. En Belgique, les cafés étaient ouverts toute la nuit.
Toute la nuit, oui.
Et ça coûtait rien. À Paris, passer une nuit blanche, j'avais pas les moyens. Hein. Même en étant croque-mort.
Oui, voilà. Donc, et puis à un moment, tu te dis, finalement, je vais quitter Paris, je monte sur l'île. Tu quittes Paris.
C'est tonton un jour qui me dit, je cherche un mécano et qui me dit, je dis, tiens, ça m'intéresse. Et je lui dis, je suis pas mécano, je suis croque-mort, mais c'était un secret pour personne.
Ouais.
Et je lui dis, voilà la moto que j'ai faite. Et il a fait le tour, il me dit, écoute, ça me va, je te prends à l'essai. Du coup, je suis rentré, j'ai classé toutes mes affaires, j'ai tout bourré dans la voiture et je suis remonté.
Ouais.
Et j'y suis resté.
Voilà. Un logement, voilà, un boulot, et c'est parti. Voilà. Alors, tu commences à travailler dans le milieu moto, et donc c'était une UC, à l'époque, c'était surtout des Harley, on vendait des Harley.
Bah, pas surtout, c'était un concessionnaire Harley, mais à l'époque, Harley, ça se vendait très peu.
Tu dis qu'à l'époque, c'était 4 Harley par an.
4 ou 5, parce que c'était les bonnes années.
Il faut expliquer que c'était les modèles fonte. Donc des modèles assez pas fragiles, mais il fallait être un peu mécanicien quand même.
Complètement fragile. J'ai donné le 1200, le 1000 fonte sans siège de soupape, c'est quelque chose.
Mais on travaillait surtout à faire de la mécanique plutôt qu'à vendre des motos neuves. Hein, faut reconnaître, mais de la mécanique, il y avait de quoi faire. Et puis Harley était un peu plus sectaire avant. Moi, c'est pas sectaire, mais tout le monde achetait pas une Harley. Ça se mérite.
Et tu dis aussi qu'en fait, ici, les gens allaient acheter des Harley en Belgique parce qu'il y avait des bases militaires encore américaines à l'époque.
Il y avait des bases militaires et puis les flics belges roulaient en Harley. Donc, il y avait les domaines belges qui vendaient des Harley pas chers, moins chers.
Et donc, ils venaient ici après vous faire réparer leurs machines et l'entretenir.
Et ils les faisaient. Oui. Donc, nous, on travaillait beaucoup à faire de la mécanique et de l'entretien d'Harley, surtout ça.
D'accord. Après, 86, 80, on ne sait pas trop l'année, entre 87 et 88, déménagement rue Solferino.
Voilà, ça a pris. Alors là.
Mais là, ça change tout. Parce que là, Harley va sortir le modèle Evo. Voilà.
Et là, ça s'est démocratisé. Donc tout le monde.
Et là, c'est plus 4 motos par an, mais c'est 200 motos par an.
La première année, 200 motos. Voilà. On a été débordés, là. On a été surpris.
Tu me dis que tu ne savais plus où mettre les caisses de pièces.
Les palettes, on les recevait sur palettes. On en avait des montagnes, on ne savait plus où ranger les cartons, les trucs. On n'avait jamais vu ça. Et beaucoup moins de mécanique. Incroyable. Les Harley marchaient.
Oui, alors avec le modèle Evolution, effectivement, c'est un modèle beaucoup plus moteur fiabilisé par rapport au modèle fonte. Voilà. Et après, c'est déménagement de Harley rue Hegel.
Voilà. Et après, ça a redéménagé rue Hegel.
Voilà. Et là, on va passer à un morceau de musique parce que là, tu vas arrêter la mécanique chez Harley et tu vas te lancer dans un autre business.
Absolument.
Juste après le morceau de musique.
D'accord.
Voilà.
Take home pay, but it's just not worth it, because you get the
Voilà, tranche de vie d'un motard des années 80, c'est avec des bois. Donc on était, nous étions là.
Voyage.
Oui, il y a la musique aussi, hein, des années 80.
Pas mal.
Aussi, hein. Voilà, déménagement donc rue Solferino pour rue Hegel, donc c'est toujours à Lille. Hein.
C'est
voilà,
toujours
mais
à Lille.
Mais en fait, c'est parce que Harley demande forcément parce que le moteur évolution, les ventes augmentent et Harley demande d'avoir un magasin plus
plus centré sur sa marque. Parce que plus,
oui,
avant on faisait
et plus beau aussi, avoir, comme
plus,
ça,
un peu plus beau.
Ouais.
Ça n'a pas été le summum. Après, ils ont redéménagé à la Madeleine. Et là, ils avaient fait un vrai magasin dans le style Harley, voilà. Qui avait coûté une fortune.
Sauf
mais...
voilà, rue Solferino, voilà, il y a les pièces, hein, parce qu'il y avait les pièces d'occasion, hein, voilà, qu'on pouvait acheter. C'était le magasin et puis plus les pièces
d'occasion. Moto-change, c'est ça. Donc, il y avait un dépôt-vente de motos. Il y avait une centaine de motos quand même. Hein, et puis, un stock de pièces d'occasion, d'épave qui se vendaient.
Et toi, tu dis, non, je ne vais pas à rue Hegel, je vais... Parce que là, il se sépare des pièces, en fait.
Il se sépare des pièces, et comme il y avait un stock assez important, je dis, tiens, je le rachèterai bien.
Et là, tu te lances dans la vente de pièces.
Bah ouais, voilà. Lille, c'était la seule ville de France où il n'y avait pas de casse-moto.
Voilà.
Et j'ai dit, je vais essayer.
Et tu rachètes tout le stock contre ton shop. Tu vends ton...
Alors, j'avais déjà vendu mon shop, j'avais racheté un Sportster, et que j'ai vendu, donc, pour acheter ce stock, prendre un loyer... Un local à Fives.
Alors, un local à Fives, donc c'était rue...
Pierre-le-Grand.
Rue Pierre-le-Grand, voilà.
En face,
voilà.
Face au centre des impôts.
Oui, oui, juste après le pont.
Pour toi, c'est une première, hein. Tu ne sais pas si ça allait marcher ou pas. Voilà, tu te lances.
Ouais.
Et ça a marché du premier coup. Tout de suite.
Ça a marché assez vite, ouais. Ça a marché assez vite. C'était des années...
Attention, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet.
Non.
Hein, voilà, faut pas communiquer sur Internet. Quand tu communiques, c'est sur. À l'époque, c'était Inter 59.
Voilà, hein, je communiquais par les journaux gratuits.
Les journaux gratuits, là.
Ouais.
Voilà. Et faut que tu arrives à trouver, à arracher des épaves.
Voilà, toute la difficulté de la casse.
Raconte-nous un petit peu comment ça marche, une casse. Voilà.
Voilà. Une casse, la difficulté, c'est un peu comme de la brocante. Hein, il faut bien acheter. Et pour bien acheter, il faut avoir des propositions.
Alors, bien acheter, ça veut dire pas cher.
Pas cher. Ouais, alors déjà, au prix, mais surtout, trouver des motos à vendre. Maintenant, ce qui tue un peu le commerce, c'est qu'avec Internet, n'importe qui peut être casseur. Ouais. Si tu as une moto en panne dans ton garage, tu vends les pièces toi-même. À l'époque, ça ne se faisait pas comme ça.
Et comment t'estimais la valeur d'une machine c'est un peu comme ça
Tu regardes
au poids
un peu comme ça, oui.
Je sais pas.
Voilà,
moi,
voilà,
ouais.
Mais en fait, c'est un peu le vendeur qui estime. Et puis, s'il en veut trop cher, il la garde. Donc après, on négocie, mais... Estime par rapport à ce qui reste à vendre dessus et puis le bénéfice que tu as l'intention de faire.
Tu dis qu'il y avait des modèles qui étaient en fait recherchés. Il y a les katanas qui cassaient l'embiellage.
C'était les 900 Ninja qui cassaient les embiellages. Mais les BMW, c'était recherché parce que comme c'est des motos qui faisaient beaucoup de kilomètres, on vendait tout là-dessus, jusqu'aux poignées de frein, les axes de moteur.
Donc ça, c'est rentable.
Tout se vendait, ça, c'était rentable. Ouais. En plus, on en trouvait au domaine, donc c'était intéressant.
C'était les gens qui venaient te voir pour vendre leur moto.
Alors, moi, je passais des annonces comme quoi je rachetais des motos sur Inter 59. Et les gens m'appelaient. Donc, à la fin, ça me prenait tellement de temps que je fermais le matin. Le matin, je le consacrais aux achats et l'après-midi à la vente.
Donc, c'était une casse comment on démontait la pièce qu'on voulait ou c'est toi qui démontais, tu rangeais dans des box avec des étiquettes
C'était un peu les deux. Mais c'était plutôt... On démontait plutôt. Au début, je le faisais, puis après, j'ai un peu laissé tomber. Donc, les gens démontaient eux-mêmes.
Ça prend du temps, ça, quand même.
Voilà, ça prend du temps. Les gens démontaient eux-mêmes, mais j'avais même des...
Donc, c'est la casse à l'ancienne, alors.
Ta
boîte à outils,
j'avais
et tu démontes.
J'avais des habituels samedi qui venaient démonter des motos par plaisir.
Par plaisir,
voilà.
Oui.
Et moi, je me chargeais de ranger les pièces après, de les noter.
Mais c'était la caverne d'Ali Baba, honnêtement. Quand on voyait la faune qui passait, c'était impressionnant le samedi.
C'était ça. Il y avait des packs de bière qui traînaient. C'était le magasin.
On venait boire un coup, on discutait avec le boss.
Exactement.
Voilà.
On bouffait au resto en face le midi, tous ensemble. Donc souvent, ça faisait des grandes tables.
Ça a bien changé. Hein.
Maintenant, c'est les impôts.
Ah ouais, oui.
Voilà. Donc,
ça manque d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, ça manque.
Les gens font plus ça. Quand je venais de Paris à Lille. Pour aller à New Steel, c'est parce que c'était encore comme ça. Les gens arrivaient toujours avec un paquet à la main et puis on passait la journée au magasin à discuter.
Voilà. Internet arrive.
Ouais.
Et donc là, tu te dis, année 2000, hein, ça commence à devenir un peu dur.
Là, je me dis rien.
Surtout que tu ne prends pas le virage Internet. Hein, tu n'es pas trop branché Internet.
J'ai une quarantaine d'années, donc facile. Donc en 2000.
Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y mettre. Alors, j'ai bien vu que ça décline.
Parce que maintenant, les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Le matin, c'est faire les colis, expédier et ouvrir le magasin l'après-midi.
Hein. Bah ouais, ouais. Moi, ça a été un peu difficile. Et j'ai eu l'opportunité de vendre. Quelqu'un est venu en me proposant, qui me disait qu'il cherchait un magasin de moto à vendre dans le genre. Donc, je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse, vas-y. Moi, je voyais que ça déclinait. J'avais beaucoup plus de mal à trouver des épaves. Donc, si tu n'achètes pas, tu ne vends rien.
Voilà, donc
j'ai préféré céder.
Tu voilà. as quoi, ton avis à Internet?
Ouais, c'était dû à Internet.
Concurrence, ouais. Concurrence Internet.
Ouais, et puis, comme tout le monde vendait, chacun fait son prix, les gens ne connaissaient pas le prix des pièces, ça se vendait à n'importe quel prix. Des pièces chères étaient bradées, des pièces pas chères.
Très bien, donc tu 2000, tu décides de vendre, et tu te lances dans quoi?
Dans la blanchisserie, plus rien à voir.
Dans le blanchiment d'argent qu'il avait gagné avec sa casse. C'est mal expliqué.
Voilà. Bah, croque-mort, mécano, blanchisseur.
Ah ouais, bah, moi,
c'est une boucle.
Je suis polyvalent.
Ouais.
Je suis polyvalent. Ouais.
Très bien.
Non, c'est pas fini, puisque maintenant je fabrique des chapiteaux.
Non, tu fais des chapiteaux, oui, je sais. Qu'est-ce que tu penses justement des magasins actuels? Tu t'es baladé un peu là sur ce clin, là, parce que c'est la plus grande zone d'Europe.
Hein, ouais, tout à fait.
Les trucs de vente.
J'y vais de temps en temps. Bon, les concessions, je vais jeter un œil par moment, ça m'intéresse pas trop. Mais les magasins d'accessoires, on en parlait l'autre jour, c'est un peu qui habille. Il n'y a que de l'habillage, il y a des bottes, des gants, des blousons en pagaille. Je suis surpris qu'on puisse vivre en...
Il n'y a pas encore les caddies. Voilà, il n'y a pas encore les caddies.
Donc c'est il y a quand même en 2018, hein, 1980, il y a quand même une évolution. Quand on regarde un peu comment ça a évolué, ces magasins, les structures.
Il y a moins d'agréments à y aller, je trouve. D'un autre côté, je connais plus grand monde dans ces magasins-là, donc j'y vais plus pour voir des amis, mais je vois pas l'intérêt.
Oui, on peut pas arriver avec son pack de bière et voilà, ouais. Mettre sur la table.
Heureusement qu'au milieu de la zone, il y a encore un café.
Oui, sympathique.
Rentrer des gens sympas.
Aussi, alors, on en parlait tout à l'heure, tu passais des nuits sur l'autoroute quand tu faisais Paris-Lille, parce que pour les pannes, donc on s'entraidait sur la route. Hein.
Absolument.
Les motards s'arrêtaient, on s'entraidait.
Ah ouais, des fois c'était sympa.
Et l'autre jour, tu rencontres un motard donc, qui était en panne. Alors là, je te laisse raconter l'anecdote.
Je ne sais pas s'il écoute, mais c'était à côté, à la chapelle d'Armentières, avec une nouvelle Yamaha. Je suis désolé, mais il était en panne. Alors j'arrive, je dis, je peux faire quelque chose. Et il sort son téléphone en disant, bah, écoute, j'ai le code panne 46, ça signifie que l'alternateur est cramé, j'attends l'assistance. Il était surpris de me voir arriver, hein. Il pensait que j'allais lui demander des sous, mais j'y avance, ça se faisait quand même. Quoi.
Bah, ouais. Et puis ça tombe, c'est simplement la connectique qui est enlevée, hein,
c'est un fil, absolument.
Un fil, hein, mais... débranché. Bon, enfin, voilà, donc c'est un peu aussi la génération des motards actuels, hein, en 2018. Voilà, bah, des bois, c'est sympa, hein, d'avoir raconté un peu presque une bonne partie de ta vie, quand même.
C'est une partie de ma vie, exact.
Mais l'ami, tu vois, enfin, pour rebondir un petit peu sur ce que notre ami Robin disait, c'est quelque part un peu la légende de la custom culture de biker, c'est-à-dire qu'avec pas grand-chose, moi j'avais mes potes de la Bastille où on roulait aussi en 500 et 750 fours à l'époque montés sur des rigides avec des petites bagnoles qu'on avait piquées à droite et à gauche, enfin bon. Et effectivement le fait d'avoir cette progression de bricoler de quelque part, c'était de l'écologie avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'on recyclait tout.
Exact.
On recyclait tout et on était à l'époque on parlait ça de pizza, mais à l'époque on était capable de faire une moto avec des bouts de ferraille. On soudait comme on pouvait parce qu'on était quand même pas des orfèvres en mécanique de pointe et on roulait avec ça. Et globalement, on n'avait pas beaucoup d'accidents et il y avait aussi une espèce de mode de vie qui avait du sens. Si tu veux, quand Robin dit on s'arrête parce qu'il y a un mec qui est en rade, bah oui, on fait normalement. Enfin, c'est banal. Mais ça se perd aussi un tout petit peu. Je parlais tout à l'heure des concessions. Je comprends que tu n'aimes pas. Tu rentres dans une concession d'une marque, tu as des gens qui te regardent des pieds à la tête parce que tu n'as pas le look after biker ou terrifiant de service. On te regarde en disant, de toute façon, c'est pas quelqu'un de bien, il n'y a pas toute la panoplie. Donc je comprends un petit peu son désarroi quand on rentre dans cet univers-là.
C'est pas mon désarroi, mais ouais, c'est pas. J'ai rien à y faire. Quoi.
Bon. Ça ressemble un peu à ça, publiquement.
Non, bon. ça a changé un peu. Bon, après, je veux pas cracher sur tout. Après, on passe pour un vieux con. Tout change, hein, tout évolue. Donc,
c'est tout. Si ça leur plaît, c'est bien.
Très bien.
En tout cas, ils ont l'air de bien en vivre.
Ah, je crois que ça, je sais pas, je suppose. Hein. Voilà.
Je sais pas,
dans le secret. On passe un morceau de musique et puis on se retrouve après avec Nicolas Langlas.
Skipped to life. Well, here I am.
Des bois avant de revenir avec Nicolas. Oui, il y avait des grands rendez-vous à Paris. Hein. Il y avait la Bastille.
Exact, la Bastille, ouais, bien sûr.
Ça tournait tout autour de la Bastille.
Les premières concentres. Ouais. C'était un grand rond-point pavé. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'était un peu casse-gueule. Mais Dieu merci, après, on avait trouvé un coin à Rungis. Donc, on allait dans les halles de Rungis tourner, ce qui était aussi casse-gueule avant qu'ils fassent le circuit Carole.
Et après, c'était Carole.
Et après, ça a été Carole.
Et pourquoi Carole? Parce que, en fait, c'est une motarde qui s'est tuée à Rungis, en fait. Et donc, le circuit, s'appelle Carole.
Voilà. Ils avaient fait ça. Mais voilà. Et d'ailleurs, je trouve scandaleux qu'ils aient fermé le circuit à Lausanne.
Ah oui, c'est scandaleux, mais
parce que, on va refaire un rangis. Quand je disais qu'on montait à Lille le vendredi pour décrasser les motos, mais c'était aussi pour assister au run qu'il y avait sur le parking Javary.
À Javary, oui.
Voilà. Emplacement du Zénith.
C'était la petite parenthèse. Voilà. Bon, Nicolas, on revient sur ce champion du monde, Marc Marquez, qui a gagné, qui a remporté donc le championnat 2018.
Marc Marquez titré ce matin à Motegi sur les terres de son employeur Honda. Et l'Espagne est encore à l'honneur une deuxième fois avec une autre victoire.
Il faut demander un peu. Il y a plus que autant de femmes que d'hommes dans le studio aujourd'hui.
Ça va s'adresser à la jante féminine.
Ouais.
Il y en a trois là à côté de nous.
Sylvie.
Et donc il y a une pilote qui s'appelle Anna Carrasco, qui a 21 ans et qui est entrée dans l'histoire de la moto puisqu'elle vient de rentrer, d'accéder au titre Super Sport mondial. Non. Elle était titrée en Super Sport 300.
C'est la marche inférieure avant la Moto3, avant
les Grands Prix. Et donc, elle s'est assurée le titre grâce à une 13e place sur le circuit français.
Voilà.
Et une performance suffisante pour devoir céder d'un petit point Mika Pérez, deuxième au championnat final des pilotes.
Première femme championne
du monde.
Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Madame Maurice.
J'espère que ce ne sera pas la dernière.
On a la parité en politique. Voilà. Et peut-être qu'un jour, on aura la parité en moto.
Voilà, en moto, voilà.
Voilà. Et Marc Marquez, qui est la même nationalité qu'elle, l'a félicité. Il lui a envoyé un petit tweet. Et voilà, l'Espagne est à l'honneur une fois de plus dans la moto.
Incroyable, hein, c'est les pilotes espagnols qui dominent presque tous les championnats. Hein.
On va dire que l'Espagne, elle domine. L'Italie n'est pas très loin derrière, puisque en Moto 2, c'est quand même le team Sky 46
de Rossi qui
mène la danse.
Ouais.
Donc voilà, alors l'Espagne, l'Italie est à l'honneur. Dans la moto.
En espérant maintenant l'année prochaine que.
L'année prochaine.
Notre ami pilote français, Yoann Zarco.
L'année prochaine, Zarco sur KTM, mais aussi.
On ne rigole pas, Daniel.
Non, mais. Deux pilotes de pointe au HRC, Jorge Lorenzo et Marquez. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? À mon avis, ça va être chaud bouillant. Et puis, il ne faudra pas oublier l'année prochaine, en Moto 2, les moteurs Triumph.
Ah oui, c'est moteurs Triumph.
Ça va être passionnant, ça va rugir.
Avec le 3 cylindres.
Et là,
donc, il va falloir écouter ce bruit-là.
Fini le vieux 600 CBR, qui n'était plus trop d'actualité.
Parce que les Moto 2, les pilotes ont la même machine, le même moteur. Hein.
Moto 2,
il n'y a que la partie cycle qui change.
Ils ont tous le même moteur, il n'y a que la partie cycle qui est changée. Et là,
C'est pour ça que les différences sont moindres, parce que c'est le pilotage qui fait tout.
C'est le pilotage qui faisait la différence. Bon, l'année prochaine, ce sera pareil. Ce sera tous des moteurs Triumph, avec des parties cycles aussi différentes, donc Suter, Calex, etc. Et par contre, il y aura un peu plus d'assistance électronique, parce que le Moto 2 bénéficiait pas d'assistance électronique. Et donc, ça va changer la donne, ça nous promet des belles courses.
C'est ce qui perturbait un peu les pilotes de Moto 2 qui montaient en MotoGP, parce que justement, il faut savoir l'utiliser, cette assistance électronique. Des fois, je suis désolé, mais t'es obligé de parler d'électronique. Je vois que tu es chouette avec des grands yeux.
Je suis un peu surpris des moteurs Triumph sur circuit, ça va glisser.
Oh, ben tu sais, c'est pas les bonnes villes de l'époque.
Ce sera des.
Tu sais, ça a bien évolué quand même.
Ce sera des moteurs Triumph qui ont été copiés par des moteurs japonais.
Ils vont plus laisser des litres d'huile sur le.
C'était dans les années 80.
Faut pas oublier que John.
Dommage, je suis déçu.
Faut pas oublier que John Blore, quand il a racheté la marque en 92, si je dis pas de bêtises, il s'est quand même inspiré de la fabrication japonaise.
Oui, mais après les Japonais, on pourrait dire que dans les années 60-70, on se sont bien inspirés des Anglaises.
L'histoire est un éternel recommencement.
Voilà.
C'est comme la mode. Donc si vous avez des vieux pantalons, gardez-les. Dans 10 ans, ils seront peut-être à la mode.
Ça dépend de toi.
Tu voulais parler du Superbike, non?
Oui, je veux parler du Superbike, mais j'en ai déjà parlé en entrée d'émission. Et donc pour le Superbike, l'année prochaine, il y aura un peu de changement. Bon, il y aura toujours Jonathan Rea, il y a son collègue Spike Shinshiyama. Et puis, je crois que j'ai tout dit pour l'instant.
Voilà.
La suite au prochain épisode.
Voilà. Très bien. Et bien l'émission se termine. Ça, là, vous avez le bonus, voilà. Parce que maintenant c'est jusque 13h, mais avec un petit passage musical, voilà. Merci Desbois d'être venu te raconter ta tranche de vie des années 80 à maintenant.
Et c'était un plaisir. Voilà. C'était un plaisir. En plus, voilà. C'était pas trop tôt, donc c'était c'était pas trop
tôt. On aurait pu commencer plus tôt, hein, maintenant, tu sais, à 10h. Voilà. Et, alors Maurice, l'année prochaine, hein, là, on compte sur toi. Hein. On fait une émission Bonneville et là, vainqueur. Hein. Tu décroches le, hein,
le titre. J'espère
le titre,
bien.
Dans les catégories. Sans carénage.
Déjà, pensez à moi, déjà, ça sera sympa.
Voilà, merci Daniel. Merci, hein. Pour la Bible, on va en faire la sortie de la Bible des backers. Hein.
Ah, bah oui,
Mesdames, je continue le tour de table. Hein. Ben, vous n'avez pas parlé beaucoup, mais bon, vous étiez là quand même. Voilà. Nicolas, merci pour toutes ces infos.
Moi, c'est toujours un plaisir de venir raconter des bêtises à la radio.
Voilà, ben, c'est très bien. Merci Laurent.
Eh bien, à votre service.
À la semaine prochaine.
Ouais, si je veux. Allez, salut, mec.